Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. La menace avait été brandie à peine 48 heures après l'invasion de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre il y a 2 ans et demi, Vladimir Poutine se sert de l'atome pour tester les nerfs occidentaux. Bombes tactiques, missiles hypersoniques, occupation des centrales de Tchernobyl puis de Zaporijja, tout le vocabulaire nucléaire y passe sans que Poutine appuie sur le bouton pour l'instant. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous retrouvons le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors le dernier épisode, il date de cet été. Il a été repris par plusieurs responsables du plus haut sommet de l'État russe. C'est sur une clarification de la doctrine russe dans une langue tout à fait propre au Kremlin.
Oui, c'est habituel. L'idée, c'est vraiment de surveiller, analyser les actions. Alors, je remarque quand même qu'on ne parle plus, alors c'est pas étonnant, mais de partenaires occidentaux ou comme avant. Là, on est vraiment passé aux ennemis occidentaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire on en est à un stade avancé dans la réécriture de notre doctrine. Et notre doctrine, on l'a réécrit en se basant sur les constats, les observations qu'on peut faire dans les guerres qui ont lieu en ce moment dans ce monde, dont la guerre en Ukraine. Hein, c'est très pompeux à chaque fois comme façon de dire. L'idée quand même, c'est rien que le fait que ces déclarations existent, en fait, sont censées alerter, j'imagine, dans un premier temps, les Américains, parce qu'en fait, les Russes nous ont habitués à une doctrine rendue un petit peu clair, un petit peu public.
Lisible, en tout cas.
Lisible, on va dire. Il y a seulement maintenant 25 ans. En gros, en 2010, ils ont annoncé, ils ont mis en ligne un document de 6-7 pages qui expliquait en gros en quoi consistait leur doctrine. Le document se termine en 2020. En 2020, il y en a eu un nouveau. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que là, on n'attend pas 2030 pour se replonger dans ce document. Et qu'on estime nécessaire dès 2024 d'en refaire une petite couche, de changer quelques termes. Alors pour l'instant rien n'est clair, mais c'est aussi le principe de ce document, c'est que les choses soient insinuées. Et d'ailleurs les Russes disent, nous on est quand même un peu plus clair que les Américains, qui en gros eux se permettent de laisser entendre que en fait tout est, enfin quel que soit l'événement, ils peuvent utiliser leur bombe nucléaire, alors que les Russes jusqu'ici on avait écrit strictement on va dire presque strictement tout de même, que l'usage du nucléaire ne se ferait que si le pays était attaqué clairement par une bombe du même type. Donc l'idée, c'est un peu de soulager ces termes-là pour les rendre finalement plus flous et créer un peu de panique. C'est toujours le premier objectif de la dissuasion chez les opposants.
Alors on va revenir dans un second temps sur à la fois le jeu sur le nucléaire qui passe notamment par l'occupation de centrales. On va revenir sur l'histoire soviétique puis russe du nucléaire, mais d'abord sur l'arme nucléaire depuis le début de ce conflit. Moi je me souviens, j'étais sur BFM TV, je venais de terminer un plateau, c'était le surlendemain de l'invasion de l'Ukraine, une dépêche tombe, Vladimir Poutine met en alerte les forces nucléaires. Point. Je descends, parce que la rédaction est au deuxième étage, très très vite en plateau pour expliquer le teint, il faut le dire, assez livide, que c'est déjà un tournant et qu'il y a de quoi avoir peur. Depuis 2 ans et demi, nous faisons des plateaux là-dessus, avec à chaque fois cet équilibre assez difficile à trouver entre il faut prendre la menace au sérieux, y compris quand des éditorialistes partent dans les tours pour être un peu vulgaires sur la télé russe, et en même temps se dire qu'on est tout de même, nous, habitants de puissances nucléaires. Il y a la France, mais il y a l'OTAN autour de nous. Comment toi tu analyses à chaque fois une nouvelle déclaration, par exemple sur la clarification de la doctrine ?
C'est-à-dire que la première déclaration, elle intervient effectivement quelques heures après le début de l'offensive en Ukraine et on est tous sous le choc. C'est-à-dire que c'est aussi un objectif d'une telle opération massive et qui était censée être plus ou moins instantanée, en tout cas rapide. C'est vraiment la sidération. Et quand derrière, vous en rajoutez une couche en parlant de nucléaire, effectivement, on ne peut que le prendre au sérieux. Alors en fait, toutes ces déclarations se basent sur une stratégie qu'on retrouve dans plein de domaines en Russie, qui est la différence entre une dictature et une démocratie. C'est-à-dire que nous, on est obligé d'en débattre de ces sujets-là. Et Vladimir Poutine, il a surfé, alors tu viens de le rappeler, via les centrales nucléaires, via les annonces d'exercices, ce genre de choses. Il a surfé depuis 2022 sur le fait qu'à chaque fois qu'il prononçait le mot nucléaire, et des gens avaient compté, c'était vraiment plusieurs fois par mois, c'était très régulier, eh bien nous, on avait des débats qui réapparaissaient en France, en Occident. Est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas en train de pousser Vladimir Poutine à bout? Est-ce qu'on n'est pas en train de le fâcher un petit peu trop? Et c'est un peu... Alors, on a tendance à conclure assez rapidement que ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'on a les débats et puis on passe à autre chose et on franchit de nouvelles lignes rouges parce que c'est avant tout fait pour formuler des lignes rouges de la part du Kremlin, tout ça. Mais ça a aussi un petit peu fonctionné quand même parce que... Il y a quand même des armes qui mettent beaucoup de temps à arriver en Ukraine. Il y a des décisions que certains responsables occidentaux ne veulent pas prendre. Et parce qu'on a pris le temps de tâter le terrain, de voir les réactions du Kremlin niveau par niveau, escalade par escalade. On voit que le Kremlin jusqu'ici repousse systématiquement la ligne rouge.
On le rappelle, il y a quand même des soldats ukrainiens qui occupent 1000 km² de territoire russe. On n'a pas vu passer une bombe tactique sur le territoire ukrainien.
Exactement. Il y avait aussi l'idée que ce qui pouvait déclencher la fureur de Vladimir Poutine, c'était l'envoi d'hommes occidentaux en Ukraine ou l'envoi de F-16, qui finalement a eu lieu. Donc on comprend que c'est sans cesse repoussé. Après, bon, c'est aussi dans la logique des choses. C'est-à-dire que c'est quand même une bombe qui est conçue, et les Russes le disent aussi très clairement dans leur doctrine, pour ne pas être utilisée. L'objectif, c'est avant tout de faire peur. Et d'ailleurs, dans leur doctrine, il y a pas que du nucléaire. C'est la doctrine nucléaire, mais en fait, il y a l'usage de plein d'autres armes non nucléaires. Et l'idée, c'est que l'ensemble est censé pousser les ennemis à ne pas aller plus loin. Mais il y a quelque chose presque de plus modéré, on va dire, dans un premier temps. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et en préparant cette discussion, j'ai découvert, alors dans le document le dernier document qui avait été fait en 2020, une notion qui m'a un peu... Alors, pas, j'allais refaire, ça, c'est pas drôle du tout, qui m'a plutôt surpris. C'est celle d'escalade pour la désescalade. C'est visiblement une invention russe. Où l'idée, parce que j'ai cru comprendre que ça n'existait pas dans les doctrines des autres pays, l'idée c'est de faire un usage massif des armes et éventuellement nucléaire pour que la guerre s'arrête suite à l'usage de ces armes.
Avoir le dernier mot.
Voilà, avoir le dernier mot, mais vraiment par le feu d'artifice, quoi. Et donc c'est potentiellement un point qui serait écrit, qui pourrait être réécrit ou de façon plus précise et utilisé pour effrayer un peu les Occidentaux dans le nouveau document en cours de réécriture.
Avant de partir sur l'histoire soviétique puis russe du nucléaire, juste un petit mot sur les centrales et l'usage qui en est fait. On a beaucoup parlé de Tchernobyl. Là aussi, tu as raison, ça faisait partie de la stratégie de sidération. Lorsque le monde entend parler du nom de Tchernobyl,
des
la centrale occupée,
dans Tchernobyl.
Terrible. Zaporijja, des visites régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et puis dernièrement, on en parle un petit peu moins, c'est celle de Koursk, cette fois sur le territoire russe, avec là aussi des messages qui sont donnés. Je l'ai vu avec notamment des comptes sur les réseaux sociaux très pro-russes, disant que l'AIEA, qui avait fait une petite inspection, était sortie totalement alarmée. Elle est alarmée, c'est son rôle. Une centrale nucléaire n'a pas de toute façon à être l'objet d'une zone de combat. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce jeu autour de ces centrales nucléaires?
Et en fait, d'ailleurs, l'utilisation de ces centrales, toute cette communication nous montre que parfois ça ressemble à du désespoir de la part du Kremlin finalement, parce que quand même dans les dernières opérations qui ont eu lieu, il y a quand même eu ces images assez hallucinantes. On voit une fumée noire s'échapper d'une tour de refroidissement de la centrale de Zaporijja. Ce sont seulement des soldats qui sont allés brûler des pneus dans la centrale. Alors ça fait des belles images qui font peur, mais on a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Tout le monde sait ce que c'est une tour de refroidissement. Et donc ça n'a pas fonctionné plus de 5 minutes, cette stratégie. Donc des fois, ça ressemble un peu à de la panique de leur part, à un manque d'imagination presque. La centrale de Koursk, pareil, il y a eu tentative d'expliquer que les Ukrainiens voulaient s'en emparer, qu'elle était en danger. Il se trouve que les Ukrainiens ne sont pas allés dans la direction de cette centrale. Donc ça a été vite compliqué en fait, d'utiliser tout ça, mais c'est quand même allé loin. Je rappelle qu'il y a eu quand même en 2023 un tir sur le barrage de Kakhovka, qui était le barrage qui créait une réserve d'eau qui servait au refroidissement de la centrale de Zaporijia, c'était aussi derrière l'objectif, hein, de faire peur en disant tout peut arriver sur les centrales à cause de la guerre qui est entretenue par l'Occident, c'est le narratif russe. Donc voilà comment les centrales sont utilisées depuis 2022. Ce qui, pour y avoir assisté, puisque j'ai eu l'occasion de faire une visite dans la centrale de Zaporijia, et ça ne les fait évidemment pas rire du tout, tu viens de le rappeler, à chaque fois, eux, ils peuvent juste dire que la guerre, qu'une centrale n'a rien à faire au milieu d'un conflit, au milieu de tirs d'artillerie. Mais c'est vrai tout de même que visiter une centrale nucléaire au son des tirs d'artillerie, parce que c'est ce qui nous était arrivé, on entendait les tirs et les explosions à proximité, ça crée une situation assez tout de même angoissante. Et même si tous les experts nous expliquent qu'un mortier peut tomber sur la coupe d'un réacteur et que ça l'attaquera pas et que tout ça est fait pour en fait et protégé contre ce genre de situation, ça reste tout de même pas anodin d'avoir des militaires qui prennent le contrôle de centrales et des tirs d'artillerie à proximité.
Alors, on parle d'attaque autour de centrales. On parle d'exercice de la triade, c'est-à-dire l'arme nucléaire, terre, mer, air. On parle de menaces vraiment brandies par un petit peu tout le monde. Et pourtant, Vladimir Poutine n'est pas docteur Folamour. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine est un pur produit de l'URSS. Et tout, lorsqu'on va dans l'ex-empire soviétique, tout nous rappelle que c'est une immense population et ce sont des dirigeants qui ont eu peur du nucléaire et qui ont vraiment toujours eu ça. Les Américains ont évidemment été dans la course au nucléaire. Les Américains sont les seuls, rappelons-le, à avoir lancé deux bombes nucléaires. Mais il n'y a pas cette peur qui est là, ou en tout cas, elle s'est évanouie à la fin des années 50, 60, après la crise des missiles de Cuba. Les Russes, eux, ceux qui ont un certain âge, ont grandi avec tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer le logiciel de Vladimir Poutine vis-à-vis du nucléaire ?
Oui, et en fait, ça crée des situations où Vladimir Poutine, au-delà du fait qu'il menaçait régulièrement l'Occident de faire usage du nucléaire, il a aussi pris la parole, et peut-être qu'on le remarque un peu moins souvent, à plusieurs reprises, pour dire « mais je n'ai pas l'intention de l'utiliser, la bombe ». C'est-à-dire que c'est vraiment en cas d'extrême nécessité, s'il y a vraiment une menace existentielle pour mon pays. Mais nous, on ne veut vraiment pas l'utiliser, cette bombe, exactement pour la raison que tu viens de rappeler, parce que les Russes ont peur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Vladimir Poutine dit « je vais utiliser la bombe nucléaire », il y a des débats qui font peur, qui apparaissent en Occident. Et en Russie, il n'y a pas de débat, il y a juste une population qui a peur en disant ouais, « de quoi le responsable de mon pays est capable, où il est en train de nous emmener ?» On veut éviter la bombe nucléaire. Tout le monde me disait tout le temps en Russie, d'ailleurs, de toute façon, si nous, on vous lance une bombe nucléaire, on va se prendre la bombe retour.
Ce sera la guerre mondiale la plus courte de l'histoire.
Voilà, exactement. Donc, en fait, personne ne veut de ça et ça fait peur à tout le monde. Il y a en plus une peur qui, je trouve, est entretenue. C'est-à-dire qu'effectivement, tu en parlais, il y a la génération soviétique qui a tout ça en tête. En plus, il y a beaucoup de comparaisons avec une sorte de guerre froide qui serait devenue chaude en ce moment.
Oui, puis même l'architecture, c'est à ça que je pense aussi, oui. Quand je dis que tout en Russie nous rappelle le nucléaire, le danger du nucléaire pour les Russes.
Oui, bien sûr. C'est, en fait, ça reste un pays dont la politique est aujourd'hui basée sur la peur des États-Unis et une menace existentielle, la citadelle assiégée. Et donc, l'idée de cette citadelle assiégée, c'est que l'arme ultime, c'est la bombe nucléaire qui viendrait complètement détruire et raser le pays. Et là, la Russie aurait perdu. Et Vladimir Poutine, accessoirement, aurait perdu. C'est aussi pour ça qu'on a tout de même, même si on ne peut pas jouer en matière de dissuasion nucléaire sur il bluffe ou il ne bluffe pas, mais on a quand même du mal à imaginer Vladimir Poutine utiliser cette bombe parce que ce serait un aveu de défaite, ce serait une défaite totale. Les Américains ont déjà expliqué que s'il y avait usage même de la plus petite bombe nucléaire, derrière eux, ils ont en cible, en ligne de mire, toutes les infrastructures militaires du pays, elles seraient détruites instantanément. C'est en tout cas ce que disent les Américains. Vladimir Poutine, je pense, en est assez conscient de tout ça. Mais ça, c'est vraiment une culture entretenue, je trouve, dans le pays, et même avec les nouvelles générations qui n'ont pas cette peur. Enfin, les gens de mon âge sont à peu près comme moi en Russie. C'est-à-dire qu'on a grandi sans se soucier de ce genre de choses. Mais ça existe encore. Il y a des questions de bunker, de savoir où on pourrait s'abriter en cas d'attaque. Il y a le métro russe, le métro moscovite. Récemment, il y a eu une petite histoire qui est passée inaperçue, mais en fait, il y a des grandes portes à l'entrée des métros qui font, je crois, à peu près 1 mètre de large et qui sont censées se soulever du sol pour monter et les fermer, comme dans les James Bond un peu, et pour transformer en gros les stations de métro en protection anti-attaque.
Sachant que le métro à Moscou, c'est comme celui de Kiev. Moi, je n'ai jamais vu des escalators aussi raides. C'est fantastique, c'est merveilleux à voir en termes d'architecture, mais c'est profond et ce n'est pas pour découvrir de belles galeries en bas et pour avoir les plus belles stations
exactement,
du monde.
Exactement, c'est conçu pour ça. C'est-à-dire que le métro a été conçu en pensant au fait que le pays serait peut-être un jour attaqué. Et je parle de ça parce que récemment, il y a une de ces portes qui s'est ouverte. Et alors, personne, si c'était un exercice, enfin, qui s'est refermé du coup, si c'était un exercice ou un problème qui a fait que la porte a commencé à se refermer, il y avait cette image d'une grosse porte qui commençait à se refermer dans le métro de Moscou. Et ça montre que des gens, visiblement, pensent à ce qu'il en serait si la capitale était attaquée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les drones qui approchent de Moscou, ça parle à personne. Il y a pourtant, à l'heure où on enregistre notre podcast, un premier décès. Il y a des drones qui ont touché Moscou et il y a une femme qui est décédée de suite à cette attaque. Mais pour l'instant, ça n'effraie personne, ça ne parle à personne. Par contre, si tu parles de bombes nucléaires, alors là, oui, c'est les gens l'ont tous en tête. En fait, beaucoup plus, je trouve, que nous en Occident, où effectivement, tu rappelais, l'Occident, c'est plusieurs pays, c'est l'OTAN, et on a tendance à se sentir plus protégé que les Russes.
Est-ce qu'il y a autour de Vladimir Poutine, c'est le cas de le dire, des garde-fous en matière nucléaire?
C'est la question qu'on se pose, parce que quand on regarde les gens qui font partie de son système, mais pas seulement médiatique, c'est surtout médiatique, mais il y a des militaires aussi qui ont une ligne dure, comme on ose encore dire, parce que c'est tout le monde a un peu de ligne dure, mais il y a dur et dur, on va dire, qui, eux, vraiment poussent à l'usage de cette bombe. Il y avait la déclaration la plus folle, et ça c'était c'était pas très bien passé pour elle, de Margarita Simonian, la rédactrice en chef de Russia Today, RT, qui avait suggéré qu'on lâche une bombe thermonucléaire au-dessus de la Sibérie. Elle avait précisé dans les zones non habitées de Sibérie pour montrer à l'Occident de quoi on était capable. Le gouverneur de la région locale est devenu fou, a fait tout un scandale. Je crois même qu'ils sont allés jusqu'à déposer une plainte contre elle, ce qui en Russie n'arrive pas d'habitude, mais on comprend que c'était un sujet évidemment très sensible. Mais voilà, y a la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir à quel point les gens qui sont autour de Poutine, notamment au Conseil de sécurité, se sont radicalisés. Il y a quand même le premier d'entre eux, Dmitri Medvedev, qui lui, je pense, il ne réfléchirait pas longtemps avant de dire « oui, on envoie une bombe, il n'y a aucun problème ». Et de l'autre, on est tous un peu restés sur cette image de gens de gradés, de militaires, de responsables des services de renseignement en février 2022, qui sont poussés dans la guerre à reculons et qui ne voulaient pas y aller. Donc, que sont-ils devenus? Que pensent-ils aujourd'hui? Est-ce que le fait que leur pays soit embourbé dans une guerre qui les menace, eux, et donc le Kremlin, est-ce que ça les a poussés à se radicaliser et à envisager l'usage de ce genre d'armes? C'est un peu toute la question qui se pose aujourd'hui. Et ce ne serait pas fou de se dire que des gens pensent autour de Vladimir Poutine qu'on peut utiliser d'une façon ou d'une autre plein de méthodes différentes, parce que dans cette nouvelle doctrine dont on parle, il serait question d'appuyer un peu sur l'usage de bombes tactiques, je crois qu'on appelle ça, plus petites, ciblées sur une ville ukrainienne particulière pour vraiment marquer le coup, mais enfin, peu importe.
La dernière question, la dernière réflexion. On a eu à faire des plateaux sur BFM TV sur cette notion de bombe tactique. Il y a eu notamment quelques analyses qui partaient, disons-le, un peu dans tous les sens sur il y a le nucléaire tactique et le nucléaire stratégique. Pour l'instant, puisque, tu le disais, la doctrine russe est relativement claire, il y a une doctrine nucléaire avec plusieurs armes à disposition. Et c'est ça qui changerait, peut-être ?
Oui, l'idée, c'est déjà de ne plus baser la doctrine sur le fait qu'on répond quand on est attaqué. Visiblement, ils ont envie un peu de se rapprocher des Américains en disant il y a des termes, il y a des conditions qu'on ne va pas développer, mais qui peuvent nous pousser à faire usage de ces armes. Et on essaye de concevoir de nouveaux missiles. Alors en réponse, parce que la régulation de la conception de ces missiles n'est plus la même entre les Américains et les Russes depuis que les Américains ont quitté les organisations gèrent, qui régulent tout ça, quoi. Et donc, les Russes se disent plus libres aujourd'hui de pouvoir créer ce genre de missiles. Et donc, il y a l'idée qu'on pourrait créer une sorte de missile qui serait un peu adapté, vraiment adapté à la situation ukrainienne et qu'on pourrait utiliser. Ensuite, sur les plateaux télé, généralement, les gens, les experts rappellent que ça a un intérêt vraiment... de communication, l'idée c'est pareil de sidérer, parce que d'un point de vue tactique, ça a vraiment strictement aucun intérêt de raser une ville ukrainienne.
En un mot pour finir, à quelle heure tu nous situerais sur l'horloge de l'apocalypse après avoir développé tout ça?
En fait, on se retrouve très régulièrement plongé dans un débat. Est-ce qu'il bluffe ? Moi, je repense à la Cité de la Peur, au film La Cité de la Peur. À chaque fois, est-ce qu'il bluffe ? Est-ce qu'il bluffe pas, Vladimir Poutine ? Et c'est évidemment un débat qui me dérange beaucoup parce que je n'arrive pas à concevoir qu'il puisse passer à l'acte. Parce que pour moi, c'est éliminatoire pour lui. S'il fait usage de cette bombe, même au sein de la Russie, on en parlait, c'est tellement fort comme symbole chez les Russes que je ne suis pas sûr qu'il garderait le soutien de sa population. Donc c'est très compliqué de le savoir, sachant qu'il repousse toutes les lignes rouges depuis 2022. Mais si un jour son Kremlin venait être encerclé par une armée étrangère ou sa propre population d'ailleurs, comment Vladimir Poutine réagirait, ça reste un mystère. Mais on n'en est pas encore au bout.
Non, je crois. Merci d'avoir le temps d'un podcast fait reculer un petit peu l'horloge de l'apocalypse. C'est du sérieux, c'est toujours difficile, cet équilibre à trouver. Ce sont des déclarations à trouver au sérieux. On ne badine pas avec le nucléaire. Et en même temps, il y a cette grammaire qui reste encore un petit peu lisible. Merci beaucoup, Paul, et à la semaine prochaine si le monde n'a pas sauté d'ici là. Merci. Non, je plaisante. Vous pourrez en tout cas d'ici la semaine prochaine retrouver tous les épisodes de notre podcast sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.